L'IRM, ça va nous permettre de comprendre biologiquement comment le cerveau fonctionne au moment où l'enfant. Donc, dans l'IRM, on va regarder d'abord juste l'anatomie du cerveau avec une séquence qu'on appelle dite anatomique.
Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 86 avec Sixtine Aumont, les maths et mon cerveau. Donc ce qui intéresse Sixtine, c'est l'apport de la neuroimagerie dans la compréhension du cerveau de l'enfant, son développement et donc ses apprentissages. Et comment, à partir de recherches fondamentales, on arrive à mettre en application ces recherches dans le domaine de l'éducation et la pédagogie en classe. Donc le calcul mental, le contrôle inhibiteur et l'attention spatiale sont les sujets de recherche de Sixtine au laboratoire Lapsidé dans le cadre de son doctorat. Donc elle nous a expliqué le sujet de recherche de sa thèse et la collaboration chercheur-enseignant. Et un énorme enjeu dans la recherche, c'est le recrutement des participants, donc notamment des enfants. Donc si vous avez des enfants qui ont 5 ans ou 7 ans, et ben voilà, vous pourrez contribuer à faire avancer la recherche. Sixtine vous apportera toutes les précisions dans cet épisode. Je laisse place à ma conversation avec Sixtine Aumont. Bonjour Sixtine, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Céline, merci.
Donc on est ensemble aujourd'hui pour parler de vos projets de recherche, d'IRM, en quoi l'IRM peut vous permettre d'aider les enfants dans les apprentissages. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter pour les auditeurs ?
Donc bonjour, moi je suis doctorante, je rentre en troisième année de thèse au sein du Lapsidé, donc laboratoire de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant. Et donc je suis sous la supervision de André Knops, donc, qui encadre ma thèse. Le titre de ma thèse s'intitule « C'est la contribution des fonctions dites de domaine général, comme par exemple les fonctions exécutives, donc l'attention spatiale, l'inhibition, et comment ces fonctions exécutives, donc ces fonctions dites de domaine général, comment elles contribuent au développement de fonctions plus spécifiques telles que les mathématiques. » Et nous, on va vraiment se spécialiser dans le calcul mental. Et donc, on va regarder... Donc ça, c'est le titre de ma thèse. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse. Et donc, on va regarder chez les enfants, en fait, comment ils apprennent le calcul mental. Donc, on regarde chez des enfants de 3 ans jusqu'à 9 ans. Et donc, en fait, on a trois tranches d'âge avec des enfants de 3 ans, de 5 ans et de 7 ans qu'on va suivre pendant 3 ans. Et donc, on a une partie purement comportementale où on va faire des petits jeux aux enfants, et une partie IRM où là, ça ne s'agit que des enfants de 5 ans et 7 ans, et on va aussi les suivre pendant 3 ans. Donc voilà pour ma présentation de ma thèse.
D'accord. Et donc, les enfants que vous allez suivre pendant 3 ans... Comment ça se passe? Est-ce que vous leur faites passer des IRM régulièrement? Qu'est-ce que vous cherchez à... Qu'est-ce que vous regardez, en fait, grâce à l'IRM?
Donc, en fait, l'IRM, ça va nous permettre de comprendre biologiquement comment le cerveau fonctionne au moment où l'enfant... Donc, dans l'IRM, on va regarder d'abord juste l'anatomie du cerveau, avec une séquence qu'on appelle dite anatomique. Ensuite, on va aussi faire des petits jeux à l'enfant dans l'IRM. Et donc là, on va regarder son activité cérébrale au moment où il fait le petit jeu. Et on va regarder quelles sont les zones du cerveau qui sont actives au moment où l'enfant fait le petit jeu dans l'IRM. Et ensuite, on peut aussi regarder avec un autre type de séquence qu'on appelle une séquence de diffusion. Et là, on va pouvoir voir les connexions entre les différentes régions du cerveau et voir justement comment se font ces connexions. Et en fait, là, ce qui est aussi très intéressant sur ce projet, c'est qu'on va regarder aussi comment le cerveau se développe et mature pendant ces 3 ans chez les enfants qui vont participer.
Et comme vous êtes centré sur le calcul mental, quand l'enfant est dans l'IRM, vous allez à 5 ans, vous allez lui poser des petites questions, les petits calculs, addition, soustraction, etc.
C'est ça. En gros, on lui fait chez les enfants de 5 ans, ça va être que du calcul mental. Et chez les enfants de 7 ans, on va aussi introduire du calcul donc symbolique. Mmh. Et c'est-à-dire 5 plus 2, et on va lui mettre on va lui mettre le résultat et on va lui demander est-ce que c'est correct ou non. Et donc, en plus des jeux arithmétiques de calcul mental, donc d'addition et de soustraction, on va aussi lui faire faire des petits jeux qui impliquent plus des fonctions de domaine général avec une fonction d'attention spatiale et d'inhibition.
Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous pouvez... Je vois pas trop de quoi il s'agit.
Les fonctions de domaine général.
Oui.
La tâche qui permet de voir de vérifier, enfin de tester les compétences d'attention spatiale de l'enfant, c'est une tâche où il y a des petits poissons qui vont apparaître sur l'écran et l'enfant va devoir dire si le petit poisson va vers la droite ou vers la gauche. Mmh. Et en fait, sur le côté, il y a aussi d'autres petits poissons qui vont pas toujours dans le même sens. Donc ça, c'est ce qui nous permet de mesurer l'attention spatiale de l'enfant. Et ensuite, la tâche d'inhibition, c'est une tâche où il va y avoir des formes. Et donc, il y a 3 formes, une en haut et 2 de chaque côté. Et si, par exemple, vous avez 2 ronds d'un côté, il faut qu'il appuie du côté où il y a les 2 mêmes formes. Et on va introduire un distracteur où il va y avoir des couleurs. Et parfois, il y aura peut-être un rond violet et un rond jaune. Et il faudra quand même qu'il appuie du côté où il y a les 2 ronds et pas en fonction de la couleur.
D'accord. Et donc là, en fait, vous testez plein de choses, parce que vous avez parlé de calcul mental, d'inhibition et de repérage dans l'espace. Du coup, j'ai du mal à comprendre le lien un peu entre ces trois choses-là.
Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs hypothèses sur finalement comment l'enfant réussit à faire ses tâches de calcul mental. Et on sait que l'attention spatiale est importante dans justement les mathématiques. Donc il y a des études qui ont montré que l'attention, quand il y a une ligne mentale en fait du nombre, où l'attention, quand c'est des petits nombres, elle va être plutôt focus vers la gauche, et vers des plus grands nombres vers la droite. Et donc ça a été montré que c'est important, on en a besoin pour bien apprendre les quantités. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait regarder finalement à quel point cette capacité d'attention spatiale est importante dans les compétences en calcul mental. Comment c'est relié. Et aussi, en fait, regarder à quel âge, peut-être qu'à 5 ans, ça va être le fait d'être très très bon dans cette tâche d'attention visio-spatiale, ça va être plus important que quand. Ça va être relié de manière plus importante à ses capacités de calcul mental que quand l'enfant aura 7 ans, par exemple. Mmh. Donc, on veut regarder en fait comment ces différentes fonctions sont reliées et comment elles évoluent dans le temps au cours du développement de l'enfant.
D'accord. Donc, vous avez commencé à faire ça il y a combien de temps?
Donc là, pour l'étude en IRM, elle commence cette année.
Oui.
Donc on est en train de faire les acquisitions. Et l'étude, parce qu'on a une étude en IRM et aussi une étude comportementale. Et l'étude comportementale, elle a commencé il y a 2 ans.
D'accord. Et donc j'imagine que si pour l'IRM ça dure 3 ans, c'est un projet qui va s'étendre sur les 3 prochaines années. Et du coup, je suis curieuse de savoir comment... j'essaye de formuler ma question. Là, vous avez dit que vous êtes en 3e année de doctorat. Et donc ça veut dire que vous êtes partie encore pour 3 autres années et ça dure 6 ans.
Alors, en fait, c'est le Covid n'a pas aidé dans le déroulement des différentes thèses, et notamment la mienne. Donc, du coup, j'ai reçu une prolongation de 8 mois, donc je vais finir en mai 2023. Mais du coup, on trouvera un moyen avec le laboratoire de pouvoir prolonger. Donc, je vais soutenir ma thèse en mai 2023, et après, je verrai pour un autre contrat pour continuer le projet de recherche.
D'accord, oui, c'est pas, même si votre doctorat sera fini, vous allez quand même continuer cette recherche-là.
Voilà, quand même pouvoir continuer.
D'accord. Et si on parle un petit peu du recrutement, c'est peut-être pas le bon mot, recrutement, mais comment vous trouvez les enfants, en fait, qui vont participer à ces recherches pendant 3 ans?
Alors, justement, c'est un gros challenge en IRM, parce que souvent, on a un peu les parents ou même les adultes en général peuvent avoir un peu une appréhension sur l'IRM. Donc, il faut savoir que c'est une technique d'imagerie qui permet donc de faire des photos du cerveau qui est complètement non-invasive, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous injecter des choses dans le corps, et indolore. Donc ça ne va pas vous faire mal, votre corps ne va rien avoir. La seule grosse contrainte, c'est qu'il faut rester allongé pendant un petit temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vraiment entraîner les enfants pour qu'ils se passent la meilleure expérience possible. Et donc comment on recrute? Les écoles. Donc on essaye de prendre contact avec les directeurs d'école et les enseignants pour essayer de faire passer le message aux élèves concernés. Donc c'est les élèves de 5 ans et de 7 ans, donc c'est grande section et CE1. Et on essaye du coup par ce biais de contacter les parents et de les motiver pour participer à notre recherche. Essayer de leur expliquer un peu le but, le fait de participer à des projets de recherche, comme ça permet derrière à nos chercheurs de mieux comprendre comment l'enfant apprend, donc ici apprend le calcul mental, et derrière d'aider nous avec nos recherches, d'aider les enseignants dans leur pédagogie.
Vous, une fois que votre recherche sera terminée, vous faites le pont justement entre le labo et la classe?
Oui, alors en fait on fait... Une fois qu'on a analysé les données, on fait des comptes rendus à toutes les personnes qui ont participé à notre projet. Donc on fait un compte rendu écrit, mais on fait aussi un compte rendu, on peut faire un compte rendu oral. Au sein du laboratoire également, sur tous les autres projets de recherche, on organise des journées de restitution avec tous les enseignants et les directeurs qui ont participé à nos projets pour justement leur dire, bah voilà, telle recherche on est là, on a eu tel résultat, voilà comment vous pouvez essayer aussi dans vos classes de mettre en application les choses qu'on a trouvées.
Donc si dans nos auditeurs, dans les auditeurs qui nous écoutent, là il y a des parents qui ont des enfants de 5 ou 7 ans et qui habitent en région parisienne, ils peuvent vous contacter.
Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Il y a encore plein de places pour ce beau projet qui est vraiment en train de se lancer. Et bien sûr, donc faut que votre enfant soit droitier. Donc ça, c'est pour des soucis de recherche. Il y a malheureusement plus de droitiers que de gauchers actuellement. Donc faut que votre enfant soit droitier et 5 ans ou 7 ans. Et n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir vivre cette belle expérience. Il y a tout un univers d'astronautes où l'enfant arrive, on le rassure, on l'entraîne dans une fausse fusée IRM. Et je lui explique bien tout le détail, ce que fait l'IRM, ce qu'il va faire. Et pareil pour les parents, c'est aussi une découverte de la science, de découvrir qu'est-ce que c'est les neurosciences, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de leur enfant. On leur montre aussi le cerveau de leur enfant, s'ils le veulent.
Et comment vous faites pour rassurer les enfants par rapport au bruit? Parce que c'est très bruyant en IRM.
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on leur met des boules qui aissent et aussi des mousses pour protéger. Et je leur fais écouter le bruit, en fait, avant. Et je leur explique qu'en fait, c'est pas comme la machine à laver de maman quand elle fait plein de bruit, c'est pas normal. Là, l'IRM, quand il fait plein de bruit, c'est normal. Et ça veut dire qu'il prend différents types de photos de leur cerveau. Donc, je leur fais écouter, je les mets en condition, en fait, pour qu'ils puissent justement pas avoir peur et vivre une belle expérience.
Et sur ces 3 années, ça représente combien d'IRM?
Donc, du coup, il y a en tout un IRM par an. Donc, donc, ils viennent chaque année, à peu près à la même période, pour faire l'IRM.
D'accord. Et du coup, cette recherche, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension sur le fonctionnement du cerveau et en particulier sur le calcul mental?
Exactement. De comprendre quels sont les mécanismes qui vont permettre à l'enfant de réaliser ses calculs mentaux. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Quelles sont les régions qui sont connectées?
Et depuis combien d'années on peut faire des études comme celle-là?
Alors, ça fait. Alors, au LabCDI, il y en avait. Alors, la date exacte du
À peu
début des
près.
IRM, je ne la connais pas, mais ça fait au moins depuis les années 2000, c'est sûr. Et il y a déjà des études qui ont été menées au LabCDI il y a 10 ans sur un projet également avec des enfants de 5 ans. Et donc, du coup, je me suis beaucoup inspirée de leur protocole pour pouvoir mettre en place le mien. Et donc, ça fait plusieurs années. Il y a eu d'autres projets aussi avec des adolescents qui a été mené au laboratoire avec cette technique de l'IRM.
Oui, j'imagine que vous avez pas au départ enfin, vous avez pas commencé avec des enfants de 5 ans, mais plutôt des plus grands.
Oui, en
Ouais.
fait, on regarde un peu finalement comment on met en place un protocole, on essaye de voir qu'est-ce qui est important pour que l'enfant se sente bien, passe la meilleure expérience. Donc, pour les enfants un peu plus âgés, effectivement. Enfin, au début des adultes et ensuite des enfants un peu plus âgés. Donc, on va tester. Puis, une fois qu'on voit que notre protocole fonctionne bien et que les enfants vont vivre la meilleure expérience possible, on va tester ensuite avec des enfants plus jeunes.
Et au début, là, vous aviez parlé des recherches donc avec les IRM, mais aussi des études comportementales. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'explications sur cette étude-là?
Oui, alors l'étude comportementale, c'est donc les mêmes petits jeux, sauf qu'on va pas regarder, on va regarder les compétences comportementales avec des scores des enfants. Donc là, on va dans les écoles, on contacte les enseignants et on distribue des consentements et on demande aux parents s'ils sont d'accord pour que leur enfant participe. Et donc, si les parents sont OK, ensuite on va dans les écoles et on prend les enfants. Donc on est plusieurs. Personne, plusieurs chercheurs à faire passer les petits jeux et on fait passer les petits jeux sur ordinateur aux enfants. Et donc, il y a tout, c'est assez ludique. On leur fait, il y a une petite carte au trésor et avec les différents petits jeux. Et donc, ils voient la progression en fait. Donc, c'est entre 6 et 8 petits jeux qu'on va mettre en plusieurs sessions. On va faire 4 premiers jeux, puis ensuite on fait une petite pause et on les voit soit l'après-midi, soit un autre jour et on leur fait faire. Les autres petits jeux et on leur donne un petit diplôme à la fin pour les remercier d'avoir participé à la recherche.
D'accord. Et vous leur expliquez votre travail, voilà, en quoi leur participation va vous être utile?
Oui, on leur explique, on leur dit que grâce à eux, on va mieux comprendre comment ils apprennent le calcul mental et aussi les maths, parce que c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de mesures avec tous ces petits jeux. Et oui, on leur explique. Et en fait, à la fin, donc c'est sûr que le gros inconvénient de la recherche, c'est que souvent, on a les résultats quand même, c'est sur une longue durée. Et donc, on fait des retours aux enseignants qui ensuite peuvent faire des retours aux élèves.
Et les enfants qui participent dans les classes, donc à cette étude comportementale, ne participent pas forcément à la recherche avec l'IRM.
Non, en fait, non.
C'est pas
Parce
les
que comme
mêmes.
ils font la même chose, il ne faut pas qu'il y ait effet d'entraînement ou qu'ils aient déjà vu les petits jeux.
Ah oui.
Donc, non, c'est deux groupes de participants différents.
D'accord. Et souvent, on entend parler de groupe contrôle dans les études. Est-ce que là, vous pouvez nous dire s'il y a un groupe contrôle, comment ça se passe?
Alors ici, il n'y a pas de groupe contrôle parce qu'en fait, on veut savoir le développement normal d'un enfant pour l'apprentissage des mathématiques. Donc il n'y a pas de groupe contrôle, mais alors du coup on va faire une tâche contrôle. On va mesurer le QI de l'enfant à l'aide de, donc c'est la batterie test, c'est la WISC ou la WIPSI. Et en fait, ça va nous permettre de savoir si l'enfant est bien, son quotient intellectuel est bien par rapport à son âge que c'est vérifié. Donc ça va être ça. On appelle ça du coup une tâche contrôle par rapport aux autres tâches.
Donc
Et
vous
donc on n'a pas de
testez
groupe contrôle ici.
le QI avant l'expérimentation et après aussi ou que
Non, juste
juste
une
avant.
fois pour voir un peu, pour voir si finalement, selon son âge, il a bien le quotient intellectuel qui correspond. En fait, comme ce qu'on fait, c'est des moyennes, on va pas regarder au cas par cas, enfant par enfant, les compétences, on va regarder une moyenne et c'est important de voir que notre groupe est à peu près homogène et que par rapport à l'âge que l'enfant a, il a le quotient intellectuel qui correspond. Et en fait, les groupes contrôle, c'est quand on teste par exemple un type d'apprentissage ou alors qu'on va faire un entraînement à une fonction cognitive particulière, et bien on va regarder finalement le fait d'entraîner l'enfant, est-ce qu'il y a une différence par rapport au fait de ne pas l'entraîner.
D'accord. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de collaboration entre les enseignants et les chercheurs, ou c'est juste, vous venez en classe et voilà, vous proposez ces petits jeux aux enfants, mais est-ce qu'il y a une réelle collaboration?
Alors justement, c'est ce qu'on essaye de faire au laboratoire, qu'il y a vraiment un lien entre chercheurs et enseignants. C'est un travail qui n'est pas toujours évident parce qu'on parle des langages différents. Et donc on essaye. Alors il y a des projets qui vont être un peu plus collaboratifs où là l'enseignant va vraiment mener la recherche dans sa classe. Donc ça a été développé par la plateforme Léa.fr. Donc ça, c'est une autre collègue qui travaille dessus. Mais du coup, dans le cadre de notre recherche, c'est un petit peu moins collaboratif parce qu'effectivement, on prend les enfants et ils sont plus dans la classe et on fait les petits jeux à côté. Après, la collaboration qu'on fait, c'est le retour qu'on fait en fait aux enseignants sur les résultats qu'on a. Et du coup, ça les aide ensuite, ça peut les aider eux dans leur pratique pédagogique.
D'accord. Et je serais curieuse de savoir un peu comment se passent vos journées de travail. Parce que c'est pas un métier. Enfin voilà, en tout cas moi j'ai du mal à m'imaginer si vos journées se ressemblent, ce que vous faites. Alors j'imagine que les auditeurs auraient aussi envie de pouvoir un peu plus imaginer de manière concrète tout ce que vous faites dans une journée.
Ah oui, alors c'est très varié. En recherche, on s'ennuie pas. Parce que ce qui est important de comprendre en fait, c'est que il y a différentes étapes dans un projet de recherche. Vous avez d'abord toute la mise en place du protocole, de quelle tâche on va choisir, enfin déjà quelle question de recherche on se pose. Ensuite, comment répondre à cette question de recherche. Donc vous allez voir dans la littérature toutes les études qui ont déjà été faites sur cette question, enfin sur le sujet qui vous intéresse. Donc ensuite vous allez poser une question qui n'a pas été posée et vous allez essayer d'y répondre. Donc pour répondre et répondre, vous mettez en place tout un protocole, donc les tâches qu'on va faire aux enfants, quel âge on vise, etc. Donc ça c'est une première partie. Ensuite, vous avez la partie recrutement, donc aller contacter les écoles, les enseignants pour voir s'ils sont motivés pour participer à notre projet. Ensuite, on contacte les parents et donc les enfants. Les parents qui ont accepté que leurs enfants participent, ensuite, une fois qu'on a assez d'enfants, on va dans les écoles, on leur fait passer les petits jeux. Donc ça, c'est la partie récolte des données. Et ensuite, il y a la partie analyse des données, où là, on va, selon les différentes questions qu'on s'est posées, on va y répondre à partir de tests statistiques et de mettre en évidence. Donc ici, nous, ça va être le lien justement entre ces fonctions de domaine général avec cette fonction plus spécifique du calcul mental. Mais du coup, je peux vous dire en ce moment, mes journées types, ça va être... Donc pendant les vacances scolaires, je récupère toutes les données que j'ai acquises et je commence à ordonner mes données et réfléchir aux analyses que je vais faire. Et ensuite, pendant que les enfants sont en classe, je vais dans les classes faire passer les petits jeux. Et dans le cas de l'IRM, donc les IRM, c'est tous les mercredis. Donc là, ça se passe sur la plateforme à Sainte-Anne, plateforme NeuroLéa. Donc là, je vais au CRC, c'est un centre de recherche clinique qui accueille en fait les participants au moment de la recherche en IRM. Et donc voilà, tous les mercredis, je suis là-bas. Donc il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il y a des journées, ça va être plus, on va regarder au niveau de la littérature, se mettre à jour sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été encore fait. Il y a d'autres jours, on va dans les écoles pour faire passer les petits jeux aux enfants. D'autres jours, on va être plus sur les analyses. Donc là, on est derrière notre écran et on va réfléchir aux meilleures analyses possibles pour avoir des résultats intéressants.
D'accord, merci. On s'imagine un petit peu mieux. Et dans le cadre de votre doctorat, vous avez ce projet de recherche ça représente 100% du doctorat, ou il y a d'autres choses à côté?
Alors, il y a également, on peut faire également de l'enseignement, donc ça c'est libre, mais c'est possible. Donc dans mon cas, je fais de l'enseignement, j'enseigne à des licences, donc on est rattaché à l'Institut de psychologie, donc à des licences qui sont en psychologie, et donc là on anime des TD. Pour les étudiants. Il y a également toute la vie donc de l'école doctorale, où vous pouvez également participer. Donc je suis également représentante des doctorants de toute notre école doctorale. Donc là, il s'agit de faire le lien entre l'école doctorale et les différents doctorants, pour voir s'ils vont bien, si leur thèse se déroule bien, si leur projet aboutit. Donc il y a différentes choses aussi comme ça. Et en plus, on a également une, donc en fait, quand on est en doctorat, on est encore étudiant, donc on est en formation continue. Et on a également des formations à suivre. Donc, il y a des formations qui vont nous aider dans notre doctorat. Donc, par exemple, ça va être des formations sur comment faire des analyses statistiques, ou alors ça va être comment m'organiser dans ma thèse, mon temps de travail. Il y a également des formations sur l'après-doctorat, quelles sont les portes qui s'ouvrent. Donc, il y a l'académique, mais pas que. Il y a également tout ce qui est du domaine du privé, qui est aussi intéressant. Donc voilà, donc ça c'est aussi d'autres choses qui font partie de notre doctorat. D'accord. Et il y a également autre chose, c'est tout ce qui est tout notre travail, c'est le valoriser, donc faire des présentations orales sur les recherches qu'on a faites, et également les présenter dans des congrès scientifiques où il y a d'autres chercheurs.
D'accord, oui, donc c'est très varié. Oui. Et est-ce que vous avez déjà une idée, une fois que vous aurez votre doctorat en poche, je sais pas si on dit pas comme ça, mais de votre avenir professionnel?
Alors moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est vraiment, c'est très 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 large, hein, c'est l'innovation pédagogique. C'est pour ça que je fais cette thèse au sein du LabCidé, c'est de faire évoluer les pédagogies à l'école et donc de continuer justement ce lien avec les enseignants et tout le corps éducatif. Donc je pense que je continuerai dans la recherche à peut-être tester des pédagogies innovantes ou voilà, je suis assez ouverte à ce qui peut se passer après, donc je pense que certainement je ferai ce qu'on appelle un post-doctorat, continuer à mener un projet de recherche en lien toujours avec l'innovation pédagogique. Mmh.
Et est-ce que vous avez des collègues chercheurs qui justement essayent de comprendre comment différentes pédagogies peuvent influencer les apprentissages des élèves ?
Alors, au sein du laboratoire, il n'y a pas encore de projet de ce type. Il y a eu de l'entraînement. Donc, est-ce que le fait d'entraîner le contrôle inhibiteur va permettre d'améliorer d'autres fonctions cognitives? Donc, ça a été fait. Et c'est encore un projet qui est en cours. Et sinon, il n'y a pas vraiment de pédagogie spécifique qui ont été testées, mais ça peut être des projets qui pourraient être intéressants pour l'avenir.
Parce que j'entends souvent parler de fonctions exécutives dans tous les projets. J'ai l'impression que, voilà, on entend. Enfin, il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler, ou en tout cas, moi, j'étais passée à côté, mais voilà, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Et quand je pense à la pédagogie Montessori, Maria Montessori avait déjà. De manière scientifique, mais sans IRM, avait déjà découvert plein de choses à propos de l'attention et de toutes les fonctions exécutives. Donc, je me dis, un projet de recherche Montessori neurosciences, ça pourrait être super intéressant.
Oui, effectivement. Je sais qu'il y a une chercheuse en Suisse qui a...
Oui, Solange Denarvaux.
Voilà, ouais, qui a, je pense que c'est une des seules études que j'ai entendues, en tout cas à ma connaissance. Oui. Mais effectivement, ça pourrait être très intéressant de confronter des pédagogies et voir finalement quelle pourrait être la plus-value. Et dans un premier temps, il faut déjà essayer de comprendre comment fonctionne un enfant normal dans le système actuel pour pouvoir ensuite voir la plus-value d'une autre pédagogie.
Oui, et je crois que Solange Denarvaux travaille sur le statut de l'erreur. Et donc, je vais la voir prochainement sur le podcast aussi, donc je pourrai.
Ça va être chouette. Super. C'est intéressant à écouter.
Merci beaucoup, Sixtine. Avant que je vous pose les 3 questions habituelles, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur votre projet, sur votre quotidien professionnel?
Non, rien de plus à ajouter. Seulement, ne pas hésiter à participer à des projets de recherche parce que ça permet vraiment de faire évoluer les choses et que le but de la recherche, c'est de faire évoluer le monde dans lequel on vit. Donc voilà, juste n'hésitez pas, n'ayez pas peur de nous contacter, de poser des questions, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de participer à un projet. On est toujours content en tant que chercheur de vous expliquer pourquoi on fait ça et quel est le but derrière. Donc voilà.
Alors, est-ce que vous serez d'accord pour nous partager un livre par rapport sur l'éducation?
Oui. Alors, j'ai écouté le podcast que vous aviez fait avec Grégoire Borst et je vais être un peu répétitive, mais le livre qui dit Doc, qui est vraiment bien fait, donc Explore ton cerveau, il est vraiment très adapté. Je sais que je le propose aussi en petit cadeau aux enfants qui participent à l'IRM. parce qu'il explique vraiment bien comment fonctionne le cerveau, les différentes parties. Il présente aussi justement l'IRM, il présente comment il fonctionne et est-ce que c'est pour que voilà, gros coup de cœur pour ce livre qui a été publié. Et voilà.
Et la citation, je sens que vous avez envie de continuer.
Donc la citation, c'est une citation de Maria Montessori que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup ses travaux. Et c'était « Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui ». Parce que je pense qu'effectivement, l'enfant a un grand, grand potentiel qui n'est pas toujours assez exploité parce que les enseignants ont leurs limites et le cadre de la pédagogie ne permet pas toujours à l'enfant d'exploiter son plein potentiel. Et je pense que c'est aussi le but de nos recherches, c'est de mieux comprendre comment il apprend pour adapter les pédagogies derrière. Et que finalement, en exploitant le potentiel des enfants, ça leur permettra plus tard d'évoluer et de changer notre monde, enfin de le faire évoluer. Donc voilà, cette belle citation de Maria Montessori.
C'est une très belle citation. Est-ce que vous préférez terminer par un coup de cœur ou par un coup de gueule ?
Non, je vais prendre un coup de cœur et aussi pour montrer l'optimisme que j'ai. Mon gros coup de cœur, c'est le dialogue interdisciplinaire qui se fait de plus en plus, qui n'est pas du tout facile parce qu'on parle vraiment tous des langages différents. Donc ce dialogue interdisciplinaire qui se fait notamment entre les enseignants et les chercheurs, qu'on essaye de développer au laboratoire et que je trouve très, très important parce que chaque discipline s'apporte. Moi-même, je viens du domaine de ma formation de base, c'est de la biologie, c'est pour ça que j'ai fait ce projet en IRM. Et en fait, le fait de pouvoir dialoguer entre disciplines, ça permet justement de mieux comprendre aux différentes échelles donc le cerveau, dans mon cas, mais de comprendre plein de choses.
Et ben, merci beaucoup pour aujourd'hui, Sixtine. Voilà.
Eh bien, un grand merci.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !